CFM Rhodes, les chroniques financières, cinquième numéro, déjà une émission proposée, présentée, animée par Steve Bonneau. Salut Steve.
Salut David.
Steve, on le rappelle, tu es conseiller financier, tu travailles à Rhodes depuis quelques mois maintenant.
C'est ça.
À ICA Finance, c'est avenue Victor Hugo, en chantier, je parle de l'avenue, hein, pas
oui,
ICA Finance.
L'avenue est en chantier, je confirme.
Bon, alors au programme cette semaine avec toi Steve, si je dis pas de bêtises, si t'as pas changé d'avis, tu nous avais annoncé qu'on allait s'intéresser à l'inflation.
Exactement.
Sujet d'actualité s'il en est en ce moment. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
Et ça rejoindra aussi les précédentes émissions, notamment la dernière où on était sur la construction du portefeuille et j'imagine que l'inflation, dans un sens ou dans l'autre, influe forcément sur la construction d'un portefeuille d'investissement. Hein,
pour, et oui, tout à fait, parce que ça reste quand même la finalité, hein, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'on n'investit pas purement par plaisir, on investit déjà pour protéger son capital, pour protéger en fait ses avoirs, et une des protections les plus importantes, c'est effectivement de garder le pouvoir d'achat de notre épargne.
À minima.
À minima. Mmh. Donc ça, c'est vraiment la base. Et là, l'inflation, fatalement, sur le long terme, a un impact très, très important. Donc quand on construit le portefeuille, il faut absolument en tenir compte.
Bon, alors l'inflation, première chose, un peu définition, Steve, si tu veux bien. Pour moi, l'inflation, enfin pour beaucoup de gens d'ailleurs, j'imagine, l'inflation, bah, c'est la hausse des prix.
C'est ça. C'est la hausse continue des prix, en fait, semestre après semestre, mois après mois. C'est-à-dire que voilà... Vous avez une inflation, ça dépend de quoi? Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est une inflation qui est entraînée par une forte demande,
oui,
adressée par exemple à l'industrie ou à la production, qui fait que la demande est tellement forte que les industriels ou les producteurs ou les entrepreneurs n'ont pas le temps en fait, de produire suffisamment pour satisfaire toute cette demande. Et donc, comment réguler le marché dans ces conditions? Simplement en augmentant les prix.
Ouais, la loi voilà. De l'offre et de la demande, comme on dit.
Exactement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, une des manières de réguler le marché, d'arriver à un peu de stabilité de ce point de vue-là, c'est de dire, bon, ben, nous, on n'est pas capable de produire autant en si peu de temps. Et donc, on va augmenter nos prix.
Et là, on augmente nos prix, ça peut être bon, pour une question d'opportunité. On se dit, bon, bah, hey, moi, j'ai 100 choses à vendre. Il y a 200 personnes qui me la demandent. Bon, bah, tant qu'à faire, on va en profiter pour gagner un peu plus que les autres fois en augmentant nos prix. Puis, il y en a peut-être comme ça que 100 qui suivront.
Voilà, exactement.
Hein?
C'est-à-dire que fatalement, ce qui se passe, en fait, c'est que lorsqu'on augmente les prix, mécaniquement, il y a moins d'acheteurs.
Ah oui.
C'est la loi de l'offre et de la demande, donc on augmente les prix à moins d'acheteurs.
Alors, cette situation que tu décris, c'est celle, si j'ai bien compris, qu'on a connue à la sortie du Covid. C'est-à-dire que tout repartait, la Chine se rouvrait, plein de pays repartaient dans le commerce, et donc d'un seul coup, plein de gens avaient envie de relancer leur activité, et derrière, l'offre ne suivait pas.
Alors, il y a de ça, c'est vrai. Mais je pense que c'est une situation qui était surtout prépondérante quand on n'était pas dans un monde globalisé.
Mmh.
C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un choc sur la demande, on peut facilement faire venir des produits de l'autre bout du monde pour servir ou compenser ce choc. Quand on était dans un monde beaucoup plus segmenté ou fragmenté, c'était beaucoup plus dur. Et donc là, les prix en fait avaient tendance à augmenter quand les producteurs ou les industriels étaient confrontés à ce choc de demande, parce que ça coûtait beaucoup plus de faire venir de l'autre bout du monde, il y avait moins d'efficacité et d'efficience dans les transports ou dans les communications, et donc c'était plus facile pour les producteurs d'augmenter le prix pour justement filtrer en fait les consommateurs potentiels et se dire vraiment le produit est bien plus cher, donc ceux qui en ont vraiment besoin, ils payent le prix.
Alors l'inflation, moi j'ai toujours connu des périodes d'inflation, je me souviens pas vraiment, à part peut-être quelques trimestres où il y a eu des situations de déflation, donc l'inflation c'est le cours, après il y a des niveaux, hein, mais c'est le cours naturel des choses.
C'est un petit peu le cours naturel des choses. Alors juste je revenais en fait sur la remarque que tu as fait qui est très pertinente, l'inflation telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est plus une inflation qui impacte l'offre de produits.
Mmh.
Comment ça se passe? C'est-à-dire que voilà, le Covid et puis bon, les conséquences de la guerre aussi, hein, il faut quand même le dire,
ouais,
impactent en fait le prix des matières premières. Et les matières premières sont un élément indispensable dans la fabrication des produits.
Ouais. Matière première, comme le nom l'indique, c'est une des bases de la fabrication de nombreux produits.
Et donc, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs, en fait, essaient de passer aux consommateurs donc, cette hausse des matières premières qui impacte leur marge directement. Donc, en fait, l'entrepreneur essaie de protéger sa marge en augmentant les prix à la distribution. Donc là, c'est vraiment un choc sur l'offre.
Alors, l'inflation, jusqu'à ces derniers mois, pour les plus jeunes, par exemple, ils n'ont jamais connu une inflation supérieure à 2-3%, je crois. Hein, c'est à peu près ça tous les ans. Il y a même un traité européen, enfin un texte européen qui dit qu'elle doit... Ou la Banque Centrale,
La Banque Centrale Européenne, l'objectif d'inflation de la Banque Centrale Européenne, dans le mandat de la BCE, c'est de le garder à 2%.
Voilà, le maintenir. Donc ça veut dire aussi que la BCE... Il y a deux choses. Ça veut dire aussi que la BCE, pour elle... 2% d'inflation, c'est bien.
Absolument.
Et pourquoi c'est bien ?
Bah, c'est bien parce que ça permet en fait de... Il faut que les prix soient suffisamment attractifs pour que les entrepreneurs ou les industriels puissent produire.
Ah ouais. Parce que moi, j'ai envie de te dire, en tant que consommateur, si les prix baissaient, je serais encore plus content que s'ils augmentaient que de 2%.
Oui, sauf que si on va au bout de cette logique-là, plus les prix baissent, et moins les gens qui fabriquent le produit ont un intérêt à le faire.
Ouais.
Parce que leur marge se compresse. Donc, il faut quand même un minimum d'inflation pour garder cette... alors, les Anglais disent incentive. Parfois, c'est un peu difficile.
Ouais, ce goût
Non, c'est cette...
cet appétit
Oui, voilà.
Cette envie
Cette envie, en fait, de fabriquer. Si le producteur n'est pas rémunéré à sa juste valeur, il y a un problème. On ne fabrique plus.
D'accord, mais alors j'ai envie de te dire, pour prendre, c'est peut-être des cas particuliers, mais il y a tout un tas de produits dont j'ai le sentiment que depuis 20-30 ans, là, sur ma vie, ils ont baissé. Les télés, moi je me rappelle quand j'étais gamin, ça valait, je sais pas, 3-4 mois de salaire. Aujourd'hui, ça vaut 2 semaines de salaire, donc ça a baissé.
Mais c'est toute la problématique de la désindustrialisation des pays souvent occidentaux. Ce qu'on a fait en fait dans les années 80, c'est-à-dire qu'on a envoyé envoyé les usines de fabrication dans les pays à bas salaire, typiquement en Asie, parce que ça coûtait bien moins cher en fait de les faire fabriquer là-bas et ensuite de les importer dans le pays pour les distribuer. Donc effectivement, on a eu en fait une pression à la baisse sur les prix parce que on a pu faire ça et on a pu faire ça grâce à la globalisation.
D'accord.
Sauf que ce qu'on a mal pris en compte, c'était les impacts en fait de délocaliser toutes ces industries sur la partie en fait sociale et sur la partie environnementale aussi, parce que plus de trafic pour faire voyager des produits, ça veut dire qu'il y a un impact environnemental important. Mais c'est aussi, et c'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire que lorsqu'on désindustrialise, lorsqu'on envoie toutes les usines à l'étranger, on réduit fatalement le nombre de consommateurs.
Pourquoi ?
Ben parce que s'il y a moins de gens qui travaillent, il y a moins de gens qui sont capables d'acheter.
Ouais, d'accord. Oui, d'accord.
C'est vraiment un cercle vicieux. C'est, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et l'équilibre est très, très subtil à maintenir.
Alors l'équilibre, là, en ce moment, il a complètement évolué. Il n'y en a plus vraiment. Enfin, je ne sais pas s'il y en a vraiment un. Là, on parlait d'inflation. Bon, classique, ces 20 dernières années, on était dans les 1%, 2%. Même ces dernières années, là, au Covid, genre zéro, quoi. Bon.
Ouais.
Et alors là, boum, patatras, depuis 6 mois, 1 an, je ne sais pas. On parle... en ce moment d'une inflation à 5-6% en France, et encore on nous dit que nous on est là où il y en a le moins en Europe, et on prévoit que ça augmente à 7 voire 10% dans l'année. Donc là on revient à mon enfance, les années 80, l'inflation à deux chiffres quasiment. Donc là à ta tête, c'est pas une bonne nouvelle.
C'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que encore une fois, donc cette inflation, elle va impacter le pouvoir d'achat des gens. Et donc, qui dit impact sur le pouvoir d'achat, dit impact sur la consommation, avec des effets boule de neige, en fait, sur les résultats des entreprises, sur le chômage et toutes ces choses-là. Et donc, moi, d'un point de vue purement financier, quand je regarde ce que je mets dans mes portefeuilles, si aujourd'hui, je vois que les entreprises que je sélectionne pour aller dans les portefeuilles des clients sont impactées par l'inflation, en sens que, ben voilà, elles ne sont pas capables, par exemple, de faire passer aux clients la hausse des prix, elles vont gagner moins d'argent, elles vont être moins profitables, et donc fatalement, le cours de ces entreprises en bourse va baisser.
D'accord.
Et ce n'est pas ce que je recherche.
Oui, bien sûr.
c'est pas ce que je recherche. Ouais.
Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà pour revenir à cette forte inflation là qui revient en France, pas une bonne nouvelle, j'ai compris ce que tu me dis, mais moi je me souviens dans les années 80 enfant c'était pas un drame qu'il y ait 15% d'inflation, les salaires y suivaient. À la limite, quelqu'un qui avait emprunté pour sa maison 5 ans avant, 5 ans plus tard, vu que tout avait suivi les salaires dans l'inflation, la charge de l'emprunt était moins forte.
Ah oui, alors c'est effectivement sur le papier, c'est comme ça.
Ouais.
L'inflation, ça incite les gens à emprunter à taux fixe sur le long terme.
Ouais.
Parfait.
Ouais.
Oui. Mais il faut que le salaire soit indexé aussi quelque part, parce que sinon ça ne sert à rien.
Oui.
Sinon c'est le piège.
Actuellement, par exemple, là l'essence elle est à 2 euros, grosso modo. Moi encore ça va, je ne roule pas beaucoup, mais je n'ai pas eu l'équivalent sur mon salaire qui a augmenté pour pallier. Mais comment ça se fait alors? Pourquoi y a ce qu'on faisait dans les années 80
On a désindexé en fait la hausse des salaires sur les prix de l'inflation, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un effet d'anticipation. C'est-à-dire que les gens demandaient effectivement des salaires plus importants parce qu'ils anticipaient de l'inflation. Ça faisait effet boule de neige. Ça fait un mécanisme auto-entretenu. Mmh. Et donc, l'inflation venait fatalement parce que les entrepreneurs ou les industriels devaient répercuter ces hausses de salaire sur leurs produits.
Mmh.
Et donc, c'était vraiment un effet auto-entretenu. Et à l'époque, on n'avait pas cette facilité d'aller acheter une télé en Chine.
Mmh.
Et donc, on a eu vraiment de gros problèmes à cause de ça.
Mais alors, de gros problèmes, peut-être, mais il n'y a pas eu de révolution. Par contre, là, si on ne nous augmente pas notre salaire pendant 3 ans avec une inflation à 10%, ça va être le bordel, pas qu'en France.
Ah, mais c'est un problème de partout.
Ouais.
C'est vraiment un problème de partout. Et c'est un petit peu aujourd'hui de l'effet de la globalisation et le fait qu'il y a vraiment une interconnexion à tous les niveaux. Un problème d'inflation, il se transmet à tout le système économique.
Parce que cet effet boule de neige que tu décris, d'accord, mais à un moment donné, cette inflation, l'effet boule de neige s'est arrêté puisqu'on est revenu à des taux de 2% fin des années 90, début 2000.
Mais oui, mais parce qu'on a cassé en fait ce lien systématique entre la hausse des salaires et l'inflation en disant là, c'est terminé, on n'indexe plus les salaires sur l'inflation.
Ah, d'accord.
Donc ça, on l'a cassé volontairement.
D'accord.
Alors, effectivement, le niveau d'inflation est revenu sur des niveaux plus gérables, on va dire.
Mmh.
Donc, il y avait une forme de stabilité.
Mmh.
Sauf que on a vu depuis 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu cette crise financière. Les banques centrales ont imprimé énormément d'argent.
Mmh.
Énormément d'argent. L'inflation, elle était là. On ne l'a pas vue dans les biens de consommation. En revanche, elle est partie dans les actifs financiers.
Oui, dans la
finance. Que l'argent, il doit se placer quelque part.
Ouais.
On ne peut pas aller à la banque, retirer de l'argent et dire le mettre sous le matelas. Ça ne se fait plus.
Ben oui.
Et donc, il est forcément investi quelque part.
D'accord.
Donc, les gens ont acheté des actifs financiers, les gens ont acheté de l'immobilier, les gens ont acheté tout ce genre de biens. Et on l'a vu, les taux étaient tellement bas que ça a incité les gens à acheter. Mais pas des biens de consommation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que oui, au niveau des prix à la consommation, c'est resté plus ou moins stable. Sauf que les marchés boursiers et le marché immobilier ont explosé à la hausse. Et maintenant, donc là, le piège est vraiment en place parce que maintenant, on a un choc sur l'offre. Donc là, on a eu beaucoup d'argent qui est investi dans le système. Et de l'autre côté, on a moins de produits qui est disponible. Parce que ce qui se passe en fait en Ukraine, ce qui se passait avec le Covid, donc toutes les chaînes en fait d'approvisionnement, toutes les chaînes de logistique qui ont été décentralisées en Asie ont été perturbées.
Mm-hmm.
Donc pour produire, quand vous avez plus de composants ou de matières premières, vous n'avez pas d'autre solution que d'augmenter les prix.
On va vers la catastrophe.
La catastrophe, je sais pas.
Mm-hmm.
Je sais pas. On va certainement vers des mesures un petit peu draconiennes.
Genre,
là, les banques centrales commencent à stopper maintenant la politique monétaire expansionniste.
Ouais.
Donc, elles commencent à arrêter leur programme de rachat donc de au niveau des banques,
mm-hmm.
de toutes les obligations. Donc, ça s'arrête. Les taux commencent à être relevés.
Mm-hmm.
On le voit aux États-Unis. Ça va arriver aussi en Europe. On ne peut pas y échapper. Donc, les banques centrales commencent à bouger parce qu'elles ont aussi un mandat. Il ne faut pas oublier ça, elles ont un mandat de maintenir une inflation à 2%. En plus, la Banque Centrale Européenne a un mandat aussi de stabilité économique. Donc pour elle, c'est vraiment compliqué parce que c'est un grand écart. Vu la fragilité en fait, de l'économie, si on commence à relever les taux maintenant, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet récession en Europe du fait simplement de la hausse des taux?
Oui.
C'est une vraie question pour la Banque Centrale Européenne.
Bon, Alors sinon, question aussi pour toi, dans ton travail de conseiller financier. Effectivement, quand il y a une inflation à 5, 6, 7% par an au lieu de 2 les années précédentes, toi-même, pour que tes clients soient contents, faut que tu obtiennes des rendements qui soient au moins équivalents à cette nouvelle inflation.
Sans leur faire prendre plus de risques.
Sans leur faire prendre plus de risques. Donc là aussi, c'est pas la quadrature du cercle, mais on n'en est pas loin quand
non,
même.
Non, c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
Oui. C'est très compliqué. Alors, comment on fait pour structurer un portefeuille dans ces conditions-là? Il n'y a pas de recette miracle. Mmh. Il faut quand même être investi parce qu'on ne peut pas garder l'argent en dépôt. C'est sûr que là, on perd du pouvoir d'achat dans ce genre d'environnement parce que l'inflation, elle est là pour rester malgré tout. Mmh. Ça ne va pas disparaître d'un coup de baguette magique. Donc, il faut quand même être investi. Mmh. Il faut accepter qu'il y ait une plus grande volatilité au niveau des marchés. On ne peut pas y échapper. Mais il faut, je pense, aussi privilégier des investissements. Par exemple, il existe des obligations qui sont indexées sur l'inflation.
Ah bon?
C'est-à-dire, dont le coupon, en fait, va suivre l'évolution des prix.
Qui c'est qui balance des coupons comme ça?
Ah ben, il y a des gouvernements, des entreprises.
Indexées sur l'inflation.
Voilà. Donc, il y a des fonds qui sont spécialisés là-dedans.
D'accord.
Qui achètent des produits indexés sur l'inflation. Il y a tout ce qui est actif réel. Donc là, c'est intéressant. Par exemple, on parlait de l'immobilier.
Ouais.
Mais quand vous louez un appartement, vous pouvez avoir en fait un loyer qui suit l'inflation.
Ouais.
Donc ça, c'est pas mal. Que ce soit sous forme d'achat direct, sous forme de SCI ou SCPI. Donc ces outils-là sont importants à avoir en portefeuille au jour actuel. Parce que ça permet de gérer. Après, moi, ce que je fais, c'est aussi, je choisis en fait des fonds dont les entreprises sous-jacentes ont la capacité de faire passer le prix ou la hausse des prix à leurs clients.
Alors, ces entreprises-là, c'est celles qui sont soit en situation de monopole, c'est moi ou rien.
C'est ça. Ça peut être des entreprises du luxe. Donc, parce que pourquoi? Parce que les entreprises qui fabriquent des produits de luxe aujourd'hui, leur clientèle, en général, elle a un certain pouvoir d'achat.
Ouais.
Elle va être bien moins impactée par le fait que le prix d'un article de luxe prenne 10-15%.
Oui.
C'est important, en fait, de discerner parmi les entreprises, lesquelles ont cette capacité à faire passer la hausse de leur prix de fabrication à leurs clients finaux.
D'accord. Et à l'inverse, qu'est-ce que dans cette période d'inflation donc qui redémarre, on ne sait pas jusqu'où ça va monter, désormais tu évites, voire tu t'interdis complètement?
Je limite les gérants qui n'ont pas la capacité d'utiliser, par exemple, des produits dérivés pour gérer leur portefeuille et leur exposition.
Ou c'est-à-dire?
Alors, les produits dérivés, en fait, sont des outils qui permettent de jouer à la hausse comme à la baisse des marchés. Donc, c'est important qu'un gérant, aujourd'hui, soit en capacité de protéger son portefeuille. Un exemple très simple. Une obligation, comment ça marche? Donc, c'est un emprunt.
Mmh.
Donc, c'est une entreprise qui va sur les marchés pour emprunter, souvent à taux fixe. Et la valorisation de cette obligation dépend du niveau des taux.
Mmh.
Donc, plus les taux sont élevés, et plus ce qu'on appelle la valeur actuelle de toutes les sommes futures que va payer l'emprunt est moindre.
Mmh. D'accord. Okay.
Donc, ces taux, ils dépendent de quoi? Ils dépendent en fait de la capacité de l'émetteur à rembourser. Donc, il y a un aspect risque de crédit.
Risque, oui.
Mais il y a aussi un aspect inflation. C'est-à-dire que dans le taux, dans la structure du taux, il va y avoir une composante qui va être dédiée à l'inflation. Et plus cette composante va être à la hausse, plus le taux va être élevé et donc moins la valeur de l'obligation sera importante.
D'accord.
Et il faut qu'un gérant puisse couvrir ce risque-là.
Quand tu parles d'un gérant, c'est-à-dire un dirigeant d'entreprise, celui-ci?
Non, je parle en fait d'un gérant de fonds.
D'accord.
Parce que moi, en fait, je travaille beaucoup avec les gérants de fonds.
Ok.
Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on n'a pas la capacité, en fait, ou les ressources pour gérer des positions en direct.
Mmh.
Les gérants le font. Ça, c'est leur métier.
D'accord. Okay.
Donc nous, quand on structure un portefeuille, l'idée, en fait, c'est un petit peu comme si on devait gérer une équipe de foot.
Mmh.
On choisit un certain nombre de gérants et on essaie de les faire travailler ensemble de la meilleure manière possible.
Ouais. Mais ça, pour ça, il faut avoir l'information et de la bonne information. Les gérants, ils sont transparents
Alors oui, il y a eu énormément de progrès de ce point de vue-là, d'un point de vue réglementaire, notamment au niveau de l'Europe. Donc, il y a eu en fait vraiment un gros travail réglementaire qui a été fait pour que la transparence au niveau des portefeuilles, des gérants, des styles de gestion et du risque que le gérant prend soit disponible pour l'investisseur. Donc,
d'accord,
on sait aujourd'hui, aujourd'hui, je vais investir avec un gérant. J'ai obligation, moi, de montrer au client en fait quel niveau de risque il va prendre. Donc, il y a une échelle de graduation de risque et on parle souvent de risque de marché. Je connais le style de gestion du gérant. Je sais que ce gérant est capable, en fait, de protéger son portefeuille avec des produits dérivés. Je sais sur quel marché il investit et dans quelle proportion.
D'accord.
Donc, j'ai assez d'informations pour travailler et structurer le portefeuille de manière, en fait, à pouvoir produire un rendement qui est au moins supérieur à l'inflation.
Alors, il y a au début, je crois que la première mission, les chroniques financières, tu nous disais que à tes clients, notamment, tu allais, enfin, un bon taux de rendement de leur investissement était 4-5% de mémoire. Hein,
je pense que c'est quelque chose, voilà.
Bon, mais là, à peu près ça. Là, si cette année on fait 6% d'inflation, t'es plus bon. Donc, tu vas leur dire quoi à partir de là?
Non, alors, ce que je dois leur dire, en fait, c'est que oui, on est dans des situations qui sont un petit peu complexes aujourd'hui, mais encore une fois, l'investissement, c'est pas du trading.
Ah oui, c'est pas du court terme.
Exactement. Il faut vraiment travailler sur le long terme et c'est pour ça, en fait, que dans des émissions précédentes, on avait beaucoup insisté, en fait, sur le projet d'investissement, sur pourquoi on investit, quels sont les objectifs, quels sont les projets. Très, très important. Ça donne en fait un vrai sens à l'activité d'investissement et ça donne surtout un sens à la manière dont on structure le portefeuille.
Je reviens à l'inflation. Alors j'ai une expression, mais je suis pas sûr qu'elle soit juste. Je sais plus où. On dit que l'inflation, c'est la mort du rentier.
Oui, parce que le rentier reçoit des flux fixes. Donc s'il a pas moyen en fait d'indexer ses flux sur son coût de la vie personnelle, en réalité, son pouvoir d'achat, il baisse. C'est pour ça, par exemple, que les loyers sont indexés sur l'inflation.
Ouais.
Et ça, c'est très important.
Mais là, ils parlent peut-être de bloquer les loyers. Enfin, j'ai entendu. Bon, remarque, on est en période électorale. Donc là, ils annoncent tout ce qui ne sera peut-être pas.
Oui, oui, d'accord. Après, voilà, il ne faut pas non plus qu'on tombe, parce qu'il y a aussi quand même un déficit d'habitation en France. Oh là, s'il n'y a plus personne, en fait, pour acheter les appartements ou les biens, il n'y aura plus de biens pour loger les gens.
C'est encore pire. D'accord. De la même façon, l'inflation, je disais, c'est la mort des rentiers. Pour ce qui est de la dette, on en parle un peu moins ces derniers temps, mais enfin, on sait qu'en France, on a une grosse dette. On sait qu'en France, on a une dette très importante. Voilà. Bon, mais l'inflation, du coup, ça va réduire le poids de la dette, comme il y a 40 ans, quand on investissait pour une maison à un moment donné.
Mais c'est toujours pareil, en fait. Oui, ça va réduire le poids de la dette si on arrive à augmenter les revenus de l'autre côté.
Ah oui, d'accord.
Il y a toujours, en fait, deux faces à la même pièce.
C'est pas automatique.
Non, c'est pas automatique. Il faut vraiment être en capacité d'augmenter les revenus de l'autre côté. Et là, il y a un intérêt. Là, effectivement, parce que si on paye un taux fixe et que la valeur de l'argent baisse à cause de l'inflation, c'est bien quand on paye, mais il faut qu'on reçoive aussi, il faut qu'on soit compensé de l'autre côté, sinon ça n'a aucun intérêt.
Oui, bien sûr.
Si on perd des deux côtés, la position ne change pas.
D'accord. Et ça, pour avoir ce revenu qui augmente, c'est pas automatique, j'ai bien compris, mais c'est des décisions uniquement politiques ou aussi des acteurs, d'un gérant d'entreprise, enfin d'un patron d'entreprise, comment ça marche?
C'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise, il faut convaincre les clients que voilà, on va être obligé de vous faire passer des prix plus importants.
Ah oui.
Et donc, c'est toujours en fait un rapport de force quelque part. Il y a certaines entreprises qui peuvent le faire parce que leurs clientèles sont d'un certain niveau de pouvoir d'achat, etc. Donc elles sont beaucoup moins sensibles à cette hausse des prix. Et il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Typiquement, pour tout ce qui est dépenses courantes, d'alimentation,
comme
de l'eau,
on entend parler,
d'EDF, les choses comme ça, c'est plus délicat.
Ouais, comme on entend parler en ce moment au niveau mondial, là pour le prix du blé, effectivement, pour du pain, pour des gens qui n'ont pas une thune, si tu doubles le prix du pain, ils mangeront de moins de pain vu qu'ils n'ont pas d'argent.
Exactement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais. On revient à la construction du portefeuille.
Oui.
Lors du dernier numéro, les chroniques financières, tu nous disais qu'un portefeuille équilibré, c'était 60-40. À peu près.
Voilà, à peu près. Ouais.
Bon, là, en situation d'inflation élevée, comme on le vit actuellement,
On change un peu, effectivement. Il faut quand même garder. Alors, il y a deux aspects importants. Il y a l'aspect rendement, sur lequel on doit se caler pour essayer quand même de préserver le pouvoir d'achat des clients. Et il y a l'aspect risque, en risque de marché, de volatilité. Donc, il faut trouver encore un équilibre entre les deux. C'est pour ça qu'on ne peut pas complètement évincer toute la partie obligataire, c'est-à-dire revenu fixe.
Oui.
Donc, il faut vraiment choisir les bons gérants qui sont capables de protéger la valeur de leur portefeuille avec les outils dont on a parlé. Moi, personnellement, je mets des obligations indexées sur l'inflation aussi, parce que ça permet automatiquement, en fait, de récupérer une partie de la hausse des prix de cette manière-là. J'utilise aussi des hedge funds. Alors, les hedge funds, en fait, pas tous, parce que il y a des situations qui font que. Moi, je préfère, là, je privilégie les hedge funds qui sont ce qu'on appelle market neutral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être capables de générer un rendement, quelles que soient les configurations de marché.
Voilà, parce que c'est bien gentil de promettre de suivre l'inflation, mais derrière, il faut bien qu'il sorte de quelque part, ce revenu supplémentaire.
Oui, exactement. Donc, il faut être capable, il faut avoir des gérants qui soient capables de tirer profit de la baisse des marchés aussi. Ça, ça fait partie vraiment, c'est une alchimie, la construction de portefeuille.
Et pour tirer profit de la baisse de certains marchés, c'est quoi? C'est jouer à la baisse, quoi, tout simplement.
C'est jouer à la baisse avec les produits dérivés.
Ouais, d'accord.
Voilà, c'est utiliser en fait des possibilités de règlement livraison de certains marchés. Par exemple, aujourd'hui, un gérant qui est market neutral, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vendre une action.
Avant de l'avoir acheté.
Avant de l'avoir acheté, donc il n'a pas.
Ouais.
Il va encaisser.
Il alloue, quoi.
Voilà, il va encaisser l'argent. Avec cet argent, il va acheter une action. Et son pari, c'est de dire l'action que j'achète va augmenter plus que l'action qui baisse.
Ça doit être un peu tendu parfois, ces trucs-là.
C'est compliqué. Oui, ça peut être compliqué. Ouais.
Bon, sinon, pour clore bientôt ce cinquième numéro, les chroniques financières avec toi, Steve Bonneau. Toi, alors, ça veut dire que concrètement, là, actuellement, dans ton travail ces dernières semaines, ces derniers mois, tu es en train d'un peu de plus retravailler les portefeuilles de tes clients que les années précédentes pour s'adapter à la situation.
Là, on fait beaucoup d'arbitrage parce qu'il faut que le portefeuille, la structure du portefeuille colle à la situation actuelle et aussi à ce qu'on anticipe. Et donc là, le travail du gérant, enfin du conseiller, c'est vraiment aussi d'anticiper ce qui pourrait se passer et faire en sorte que le portefeuille soit le plus résilient possible.
Tienne le choc.
Voilà. Donc là, il faut vraiment, et là, il n'y a pas de miracle, il faut vraiment essayer de diversifier le plus possible, mais il faut vraiment faire très attention aux gérants avec lesquels on travaille.
Oui, là, c'est quoi? C'est une histoire de confiance, de connaissance?
C'est une histoire de confiance, de connaissance, d'accès à l'information. Moi, j'aime beaucoup, en fait, avoir la capacité de parler directement à l'équipe de gestion.
D'accord.
Parce que ça permet d'avoir un feeling sur ce qui se passe dans les marchés, qu'on n'a pas forcément en lisant la presse ou en regardant les écrans. Et puis, ça permet aussi d'avoir leur point de vue sur les marchés et comment ils se protègent, etc., etc. Et donc, ça, c'est vraiment de l'information brute, mais qui nous donne, nous aussi, une idée de ce qui potentiellement peut arriver. Et donc, on structure le portefeuille en fonction.
Dernière chose, du coup, tes clients en ce moment, ils sont plus tendus que... Ils sont inquiets?
Alors, il faut leur parler beaucoup. C'est dans des phases de marché compliquées où il faut vraiment retisser le lien avec le client. Donc, leur expliquer ce qu'on fait, leur expliquer qu'il va y avoir de la volatilité et que donc, ils ne doivent pas s'inquiéter si certains de leurs investissements baissent et de leur rappeler... En fait, qu'on a fait tout un travail pour mettre en avant leur objectif d'investissement et ce qu'ils voulaient faire dans le futur. Voilà. Et donc là, c'est vraiment une très grosse valeur ajoutée du gérant que de maintenir ce dialogue ouvert avec les clients.
Merci Steve.
Avec plaisir David.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Exactement.
Ciao.